Je suis ravie donc d'accueillir cette journée d'accélération de l'ICAR Lab et surtout en raison de son thème « Étendre le rôle social du musée ». Alors on a accueilli avec plaisir cette journée pour beaucoup de raisons, mais pour deux d'entre elles. D'abord parce que vous allez entendre l'intervention d'une personne de mon équipe, Anaïs Reynaud, qui va vous parler d'une exposition que j'ai découverte en arrivant. Et je crois que je ne pouvais pas trouver exposition qui corresponde le plus à ce que j'avais envie de faire. C'était une exposition empreinte carbone. Donc je suis ravie qu'elle puisse vous en parler. Donc c'est une des motivations. L'autre motivation, c'est la convergence que j'ai pu trouver, en tout cas dans ma lecture de ce que vous allez faire aujourd'hui, mais je me trompe peut-être, hein, mais la convergence du thème de votre journée avec une partie des réflexions qui ont nourri l'élaboration du projet scientifique et culturel du musée. Alors, il n'est pas encore complètement avec le tampon de validation de notre conseil d'administration, mais ça ne saurait tarder. Alors, ce projet scientifique et culturel repose en fait sur quatre principes ou quatre mots-clés qui, vous le verrez, ont le grand avantage de permettre un acronyme facile à retenir, TEC. Alors, un musée TEC, ça tombe bien, c'est un musée technique, c'est-à-dire que c'est plutôt que d'être un musée des sciences ou d'histoire des sciences, ou même d'histoire des techniques, c'est un musée qui parle des systèmes techniques, donc dans leur complexité, et qui valorise le geste, la compétence technique comme vecteur de compréhension du monde. Tech, technique. C'est un musée engagé. Et là, on commence à voir les échos avec ce que vous allez discuter aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un musée qui fait de sa responsabilité sociale et environnementale un axe de son travail. Pas quelque chose qu'on ajoute parce qu'il le faut, mais bien un axe important. Engagé, pas militant, on n'aura pas le temps de l'élaborer, mais je pense que c'est un élément important à avoir en tête. Un musée contemporain parce qu'il est ancré dans le présent, et j'y reviendrai un tout petit peu, ça fait partie de son histoire d'être ancré dans le présent, et cette idée que nous sommes un musée contemporain, malgré les collections que nous avons, c'est quelque chose qui va évidemment infuser la programmation des expositions, mais aussi toute notre politique d'acquisition. Et enfin, c'est un musée humain, c'est un musée qui met la dimension humaine au cœur de son propos, à la fois en accompagnant les objets techniques de toute la connaissance des usages, des gestes, des conséquences humaines des techniques, mais aussi un musée qui met l'humain, le visiteur et le collaborateur au centre des préoccupations. Donc, ces quatre principes qui font donc tech découlent d'un constat qui est que l'ambition académique, l'ambition érudite du musée, qu'il a fait s'apparenter d'une certaine manière au travail universitaire, l'a un petit peu enfermé dans une tour d'ivoire. Mais cette tour est en train de se fissurer à la fois par des pressions externes et par des pressions internes, c'est-à-dire des volontés des gens qui travaillent dans le musée, que le musée puisse être autrement. Alors pour le Conservatoire national des arts et métiers, c'est un peu un retour aux sources, puisque le projet lui-même, le projet d'Henri Grégoire, donc l'abbé Grégoire, est un projet politique dès sa création. Et il s'inscrit dans un double besoin, un besoin social d'émancipation par la connaissance. Et je ne vais pas rentrer de nouveau, je pourrais vous en parler pendant 3 heures, mais donc un besoin social et un besoin économique de stimulation de l'industrie française dans un contexte de guerre d'abord, puis de concurrence avec l'Angleterre. Donc le Conservatoire national des arts et métiers est né ancré dans le monde. Le musée des arts et métiers d'aujourd'hui doit être ancré dans ce monde. Et évidemment, les défis du monde sont assez différents. Et ces défis, en fait, ils bouleversent le musée. J'aime bien cette notion d'être bouleversé, parce qu'en fait, ça veut dire changer l'ordre des choses, c'est-à-dire mettre en désordre. Et on sait que c'est en mettant en désordre qu'on peut passer à autre chose. Bouleverser, c'est aussi créer une émotion. Et je pense qu'on ne peut pas avoir de transformation et d'engagement social, d'avoir un rôle social, s'il n'y a pas aussi une émotion. Donc le musée est bouleversé par un ensemble de crises de l'esprit critique d'abord. J'ai envie d'ajouter parfois la crise du doute, la crise de la nuance, toutes choses qui nous manquent, et l'actualité récente, et je ne m'y attacherai pas trop longtemps, nous pousse évidemment à réaffirmer l'existence de cette crise. Une crise de la virtualisation aussi, d'un monde dont on s'éloigne, d'un monde dont on s'éloigne de cette matérialité du monde, et je pense que c'est une crise qui nous influence beaucoup. Une crise du vivre ensemble, certainement, et puis une crise écologique, bien sûr, et surtout, je dirais, puisque c'est la première fois que l'humain est conscient qu'il vit dans un monde qui pourrait ne plus être habitable pour l'humain dans quelques générations, et qu'on y a une double responsabilité de cause et peut-être d'effets bénéfiques. En tout cas, c'est mon espoir. Et donc, nous avons, par rapport à ces crises, à relever plusieurs défis. J'en ai identifié trois pour lancer peut-être des idées qui pourront être reprises dans la journée. Un défi du rapport aux faits. Il est de plus en plus essentiel que le fait démontré, le fait discuté, le fait sur lequel on croise les faisceaux de données pour l'étayer, le fait est essentiel à la compréhension du monde et à la discussion sur le monde. Si on ne s'accorde pas sur les faits, on ne peut pas discuter du monde. Donc tous les centres de culture scientifique et technique ont évidemment, et nous sommes aussi, même si nous avons une collection, nous sommes aussi porteurs de cette culture scientifique et technique. C'est un enjeu majeur, et je sais que Universcience est dans dans les membres de votre groupe, de votre laboratoire. Le baromètre de l'esprit critique qui est produit chaque année fait partie de cette démarche de la culture scientifique et technique. Dans ce rapport aux faits, il y a aussi cette nécessité de lucidité, et ça, Anaïs va pouvoir vous en parler, cette lucidité par rapport aux collections du musée, par rapport à l'histoire du musée, à ce qu'il reflète, mais aussi d'exigence par rapport au fait de donner des clés de compréhension, et Empreinte Carbone en est un bel exemple. Un défi du rapport au réel, et là nous avons une immense chance. Nous sommes composés du réel, c'est-à-dire que nous avons des objets, et des objets, et des objets, et des objets. Et rien de tel que l'objet, quand on cogne, ça fait mal, ça vous ramène au réel. Et ces objets, en plus, ont un grand pouvoir, qui est un pouvoir de médiation, c'est-à-dire un pouvoir de générateur de dialogue, et notamment de dialogue interculturel et de dialogue intergénérationnel. Donc je pense que ce rapport au réel est une des forces et un des axes sur lesquels nous devons vraiment travailler. Et puis, dernier défi que je voudrais mentionner, c'est le défi du rapport au faire. Nous avons, en peu de générations, perdu une grande partie de nos compétences techniques, de notre capacité à agir concrètement sur les choses, pour dire simple, à réparer le monde qui nous entourent, les objets qui nous entourent. Toute l'histoire des techniques, toutes nos collections traduisent le fait que l'humain a toujours été capable d'avoir une action concrète sur le monde. C'est ça que j'appelle le faire. Et pour moi, il faut revoir les techniques dans leur dimension anthropologique. C'est la technique qui permet à l'humain de vivre, d'être dans le monde. L'humain est beaucoup trop fragile pour résister au monde, à la nature. Et donc, les techniques ont été des extensions de son corps avant d'être des outils d'exploitation de l'environnement. Et je pense qu'on doit repenser les techniques dans ce sens-là et donc revaloriser les gestes techniques, les métiers techniques, et se dire que la main et l'esprit sont liés et que les arts de la main sont aussi des outils de réponse à la crise écologique dans laquelle nous sommes. Donc voilà le projet j'irai du musée. Voilà le projet sur lequel nous allons travailler pendant 5 ans, à minima. Et j'espère que je vous aurai donné quelques pistes à réfléchir, mais je suis certaine que vos discussions, puisque j'ai des collègues qui sont dans la salle, vos discussions vont aussi, à l'inverse, nourrir nos réflexions qui sont bien sûr non arrêtées, qui sont bien sûr en mouvement pour alimenter nos actions. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée de travail.
On va essayer de pouvoir se mettre à deux. Ça prend un micro, toi, c'est peut-être plus facile. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de me laisser présenter en fait, le cadre dans lequel vous êtes aujourd'hui. Donc, je vais commencer. Alors, je me présente juste. Comment tu fais pour... parce que moi, je suis pas... C'est laquelle ? C'est celle-là ?
C'est les flèches. Non, non, c'est sur le côté.
Oui, bah.
Okay. Oui, bah. Donc, moi, je suis Sol Leixer. Je suis directrice de recherche au CNRS. Je suis historienne et musicologue. Je travaille sur les contre-cultures musicales. Et depuis 2 ans, je porte avec David Kerjomi, qui est aussi directeur de recherche au CNRS côté informatique, ce programme national de recherche industrie culturelle et créative, dont le petit nom barbare est PEPR-ICAR. Et dans le cadre duquel Noémie organise sa journée. Alors, c'est quoi ce programme de recherche ? En 2021, le président de la République a lancé une trentaine de stratégies nationales d'accélération, SNA, pour réindustrialiser la France. Tous les grands domaines stratégiques majeurs sont traités par cette stratégie. Donc, vous avez cybersécurité, quantique, 5G, etc. Et au milieu, au titre de l'industrie, quoi qu'on en puisse en penser, il y a cette stratégie industrie culturelle et créative qui est dotée de 400 millions d'euros. Toutes ces stratégies d'accélération comportent un volet recherche qui est opéré par l'organisme de recherche le plus à même de l'opérer. Tout ce qui est quantique, par exemple, c'est le CEA, et le CNRS a récupéré le projet, le programme industrie culturelle et créative. Donc tout ça pour dire que ICAR constitue le volet recherche de la stratégie d'accélération industrie culturelle et créative. C'est donc le CNRS qui porte, et j'insiste là-dessus, on n'a pas de partenaire. On a beaucoup réfléchi avec David quand on a écrit ce document stratégique, justement pour se laisser la liberté qui est tout le monde, tous les enseignants-chercheurs et chercheurs de l'enseignement supérieur de la recherche et des écoles du ministère de la Culture qui puissent participer, parce qu'un partenariat, ensuite, très vite, il y a des logiques de ça exclut ceux qui veulent déposer, etc. Donc, c'est le CNRS qui porte, mais évidemment, c'est ouvert à toute la communauté. On est donc deux en situation de pilotage, heureusement, parce que c'est un gros programme, donc il y a David côté informatique et moi pour le côté sciences humaines et sociales. Nous avons deux partenaires. Le premier, c'est un équipex qui s'appelle Continuum. Donc derrière ce nom se cache une trentaine de plateformes de très haute technologie réparties sur le territoire qui s'occupent de réalité virtuelle, haptique, tridimensionnelle et dont la vocation est de s'ouvrir aux expérimentations que les chercheurs ou les artistes voudraient y mener dans le cadre du programme. Le deuxième partenaire, c'est la très grande infrastructure de recherche Oumanoum qui s'occupe des données et métadonnées en sciences humaines et sociales, d'habitude des projets de recherche, mais qui là est en train de s'ouvrir aussi à toute la question des data, des industries culturelles et créatives. Le montant du programme, il est de 25 millions d'euros. Alors, pour être tout à fait honnête, on a 20 millions d'euros consolidés et 5 pour un appel à manifestation d'intérêt dont on ne sait pas s'il va sortir le contexte actuel, ce qui est bien dommage parce que c'était du blanc ouvert aux communautés. Pour une durée de 6 ans, un peu plus longue parce que le temps de la contractualisation a été important. On a inauguré le projet en juin dernier et là on est à peine en train de lancer nos actions. Alors, c'est tout un bazar, c'est un très gros programme. Aujourd'hui, la journée a lieu dans le cadre, il y a 7 projets dans ce programme pour l'instant, et dont un projet structurant et 6 projets thématiques. Donc le projet structurant s'appelle ICAR Lab, c'est celui qui est ouvert vraiment de manière très large à tout le monde. Et on l'a organisé par grands secteurs industriels, donc art visuel, audiovisuel, design et architecture, édition, jeux vidéo, métiers d'art et de mode, musée patrimoine, musique, spectacle vivant et art de vivre. Donc aujourd'hui, sauf erreur de ma part, on est plutôt dans musée et patrimoine. La vocation, ce projet structurant, elle est multiple. Elle a notamment pour rôle de rassembler les communautés de recherche et professionnelles, parce que j'ai même pas dit que la mission que nous a donnée l'État, ça a été de mettre la recherche au service des industries culturelles et créatives pour les accompagner dans leur développement, alors plutôt économique, mais on a réussi aussi à tirer social, numérique, etc. Le premier constat qu'on a fait, c'est qu'en réalité, personne ne se parlait. C'est-à-dire que les communautés SHS et les communautés informatiques, elles ne parlaient pas beaucoup entre elles. C'est un état de fait, hein, ce n'est pas un reproche, mais il y a clairement des questions de langage et puis aussi la question d'aller vers l'autre. Et que les communautés de recherche et les communautés professionnelles se parlaient très très peu. Soit parce que nos communautés à nous ont du mal à aller à l'extérieur, et parce que les communautés professionnelles ne comprennent pas forcément l'intérêt et la force aussi de ce que peut être la recherche. Donc toute la stratégie du programme a été bâtie autour du concept de rencontre. Donc c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. C'est-à-dire faire intervenir dans un même endroit et surtout faire parler les communautés de recherche et les communautés professionnelles sur des thématiques qui nous paraissent plutôt intéressantes à creuser, donc un peu nouvelles, en gros des thématiques d'avenir. Et on espère que derrière de ces journées de rencontre, que ces journées de rencontre susciteront du travail collectif que derrière on va appuyer financièrement avec le programme. Donc IcarLab a pour rôle de rassembler ces communautés, de les animer, je rajouterai lourdement, on a donné comme objectif une soixantaine de journées par an, donc c'est beaucoup, mais je pense que c'est nécessaire pour susciter la rencontre, de faire dialoguer l'ensemble de la filière industrie culturelle et créative au passage qui fonctionne beaucoup par silo, et d'assurer évidemment tout ce qui est veille et prospective pour préparer 2040.
Voilà, sans transition. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci Noémie de nous avoir associés à cette journée. Donc, moi, je suis Gilles Simon, professeur à l'Université de Lorraine. Je suis spécialiste en informatique, en vision par ordinateur, analyse d'images, réalité augmentée, toutes ces choses-là. Et puis, donc, je co-anime le secteur musée et patrimoine avec Lise Renaud, maîtresse de conférence à l'Université d'Avignon, côté SHS, qui s'intéresse à des problèmes de médiation muséale. Et puis Thomas Sagori, qui est responsable du développement numérique au musée d'archéologie nationale. Donc, il est aujourd'hui même dans la grotte Chauvet pour faire des acquisitions en vue de la construction photogrammétrique de la grotte. Vous comprendrez qu'il n'ait pas pu venir aujourd'hui. Voilà. Donc, que dire sur le secteur A? Donc en fait, voilà, on commence tout juste. On a fait une première journée d'accélération le mois dernier au carrefour du numérique, à la Cité des sciences et de l'industrie, qui s'appelait « Retour aux origines pour une fresque des projets numériques patrimoniaux ». Donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant pour commencer cette série de journées de regarder un petit peu en arrière, de faire un petit état des lieux sur ce qui a été fait par le passé. On est remonté jusqu'au 15e siècle à travers la Tavoletta de Brunelleschi qui répondait déjà à un projet de médiation à travers la réalité augmentée. Jusqu'à aujourd'hui, on a eu les travaux de Noémie qui nous a présenté son travail. On a le Carrefour du numérique qui a fait un gros travail aussi de rétrospection sur les différents projets qu'ils ont menés depuis les années 80. Voilà, donc c'était tout à fait intéressant de voir que beaucoup de choses ont déjà été faites. Parce que ça, c'est un des soucis qu'on a déjà rencontrés. Hein. C'est des projets qui ne sont pas forcément conscients du fait que quelque chose de très similaire a déjà été proposé par le passé, dont on pourrait s'inspirer. On est là aujourd'hui pour notre deuxième journée d'accélération. Donc là, c'est une journée labellisée. Hein. C'est pas nous qui l'avons organisée au niveau du programme, mais on est très, très contents d'y participer. Et puis, donc, il y a d'autres journées prévues. Une journée IA et patrimoine en octobre 2025. avec le JDR IASIS du CNRS. Et puis on va aussi prévoir une journée sur les données, les métadonnées, c'est un terme très important pour tout le programme d'ailleurs. C'est aussi pour ça que Umanum est associé au programme. Et on a d'autres idées de journées qui devraient se faire, une journée sur les résidences dans les lieux culturels, sur les projets de rénovation des musées, sur l'évolution des indicateurs, sur les petits musées. Voilà, on est ouvert à toute idée, hein, donc si vous avez, envie d'initier une journée en collaboration avec nous, comme l'a fait Noémie, on est tout à fait ouvert à toute proposition.
L'idée, c'est que, tu me permets,
bien sûr.
L'ICARLAB, donc les 10 grands secteurs, on a mis à la tête de chacun des secteurs au moins 3 facilitateurs, on les appelle comme ça, un chercheur en sciences humaines, un chercheur en informatique, et un ou plusieurs professionnels en fonction de la physionomie du secteur. Donc c'est vraiment les points d'entrée. Si vous voulez organiser une journée, si vous avez une idée, etc., vous les contactez. Et derrière, on a toute une cellule administrative et technique que je remercie beaucoup, ils sont tous au fond, je vais quand même les citer, Yacinthe Bello, chef de programme, Marion Brissard, gestionnaire administrative et financière, Taina Pereira-Ramos, notre nouvelle chargée de communication, qu'on est très heureux d'accueillir, et Voto, qui est là, à au son et à l'image. Et donc l'idée, c'est vraiment pour ces journées, vous êtes force de proposition, si elles sont acceptées, et derrière, tout est géré, c'est du clé en main, vous vous occupez de plus rien. Et l'idée, c'était aussi de vous faciliter la tâche, parce qu'on sait comment c'est compliqué dans l'écosystème aujourd'hui d'organiser la même chose. Donc l'idée, voilà, on est là en appui, il faut juste que vous ayez des idées.
C'est encore à moi.
Alors, juste pour être un peu plus exhaustif sur le projet, donc à côté de ce projet sectoriel de grande ampleur, il y a 6 projets thématiques qu'on appelle en langage PEPR des projets ciblés. Donc eux, ils ont pour vocation de travailler des thématiques qui faisaient écho à la stratégie nationale d'accélération dont je vous parlais tout à l'heure. Donc nous avons créé, produit, diffusé à l'heure des technologies immersives et de l'intelligence artificielle, touché le public, ça peut aussi intéresser, on est en plein dedans aussi aujourd'hui, surmonter les crises, on est aussi en plein dedans par certains aspects, bien-être, démocratie, résilience et citoyenneté, alternatives culturelles et créatives, et 2 projets un peu plus spécifiquement orientés sur le métavers, le premier plutôt du point de vue économique et juridique, et le deuxième vraiment expérientiel sur les plateformes de haute technologie dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là c'est pareil, vous pouvez aussi contacter tous ces projets en un seul, pour un seul porteur, tout est détaillé sur le site internet, si vous avez des idées, vous pouvez aussi les contacter, et ils ont la même vocation que nous, mais non pas par secteur ou CC, mais par thématique.
Voilà, en plus de ces axes transverses, il y a aussi des référents qui sont concernés par tous les axes et par tous les secteurs, référents Europe, international, et puis bon, plusieurs thèmes comme celui-là. Et nous avons donc une référente transition écologique qui est Lucie Marinier, professeure au CNAM, titulaire de la chaire d'ingénierie de la culture et la création, qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'elle est au CITEM. Pour présenter un ouvrage, si j'ai bien compris. Mais voilà, donc ces actions en cours concernent la prise en compte des enjeux socio-économiques dans tous les appels à projets, donc, comme je disais, y compris les appels doctoraux, à contrats doctoraux. L'évaluation de l'impact socio-écologique, qu'il soit négatif ou positif, de l'ensemble du programme. La construction d'axes de recherche sur les enjeux donc, écologiques dans chaque programme. Et puis, donc, elle prépare une journée également d'accélération autour du livre Musée, écologie, mission, engagement et pratique, donc, dirigé par Lucie Marinier, Hélène Vassal et Aude Porceda. Donc, c'est un ouvrage auquel probablement certains d'entre vous ont contribué dans cette salle.
Alors, pour finir, si vous voulez retrouver toutes les informations sur le programme, on l'a dans un site internet, qui n'est pas l'adresse qui s'affiche là, c'est, je vais vous en parler juste après. Toutes les journées sont captées et restituées en forme de fichier son sur le site du programme. Donc, ça veut dire que vous pouvez écouter toute la matière si ça vous intéresse. L'idée, c'est aussi d'arriver à que la ressource soit accessible. On est en train de réfléchir aussi à des formats de publication un peu plus spécifiques. Et si vous voulez rejoindre le programme, on a depuis quelques semaines une plateforme de rencontre, c'est vraiment comme un Tinder, qui s'appelle Ariane. Donc vous allez sur Ariane, vous identifiez au moyen de mots-clés. Pour les professionnels, c'est les mots-clés des secteurs, et pour les chercheurs, c'est les mots-clés de l'Europe, en fait, de toute la nomenclature, histoire d'avoir un peu plus de granularité. Et vous apparaissez sur la carte, il y a un petit moteur de recherche, comme ça vous pouvez chercher les gens qui travaillent sur les mêmes thématiques que vous, dans l'espoir que ça suscite des synergies. À côté de ça, ça gère aussi les listes de diffusion. On est en train de les mettre en place grâce à Taina qui est arrivée. Donc c'est pareil, on espère que ces listes de diffusion vont être actives. Pour l'instant, personne n'a rien écrit, mais ça va venir. L'idée, c'est aussi, quand il y a une manifestation qui vous paraît intéressante pour le programme, de signaler à tout le réseau, etc. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à s'emparer, c'est fait pour ça. On a près de 700, je crois, inscrits pour l'instant. On espère qu'à la fin du programme, il y en aura beaucoup plus. Et on va aussi l'augmenter, la plateforme, avec peut-être les endroits de résidence d'artistes. Enfin, voilà, l'idée, c'est une plateforme vivante qu'on va essayer d'augmenter au fur et à mesure du programme pour que ça devienne un centre de référence à la fois pour les chercheurs et pour les professionnels. Voilà. Excuse-moi, Naomi, on a été long, mais je pense que c'est important d'arriver à contextualiser. Donc, vous avez compris, c'est un programme qui est ouvert. En fait, on a besoin de vous, chercheurs et professionnels, parce qu'on ne fera rien sans vous. Donc, vous n'hésitez pas. Et c'est Gilles, le point d'entrée. J'adore le faire.
Oui, et juste voilà, sur l'adresse qui est indiquée, si vous enlevez Ariane, vous êtes sur le site du PEPR et vous pouvez aussi aller voir les différents appels à projets, hein, contrats doctoraux, financement de petits projets, accompagnement doctoral. Hein, donc on a un certain nombre de dispositifs qui sont au fil de l'eau. Donc n'hésitez pas à aller voir les dates pour répondre à ces appels sur le site.
Merci beaucoup.
Merci.